Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
J'aimerais vous parler de la lumière. De la lumière de Dieu. C'est un sujet important. On va lire trois textes tout d'abord et on verra ensuite ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous pouvons lire au verset 8. Éphésiens 5. Verset 8 jusqu'au verset 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. » La deuxième lecture est un proverbe, une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Nous lirons deux versets, les versets 18 et 19. Proverbes 4, 18 et 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants, par contre, est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et puis enfin, un texte bien connu dans le psaume 119, psaume 119, qui ne connaît pas dans ce psaume le verset 105, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Et encore le verset 130, dans le même psaume, « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ce moment de partage de la parole? Que nos cœurs soient disposés, ouverts, réceptifs. Seigneur Jésus, je ne me confie pas en moi-même. Je me confie en toi. Je m'appuie sur toi. C'est ta parole que je veux annoncer. Seigneur, et nous te prions ensemble que ta parole trouve le chemin de nos cœurs. Seigneur, que ta parole ce matin, véritablement, entre au plus profond de nous pour éclairer ce qui est encore dans l'ombre. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La lumière. On est fait pour la lumière. On n'aime pas trop cette période de l'année, novembre, surtout depuis qu'on a changé d'heure. La nuit tombe vite. Et en fait, on est fait pour la lumière. Et quand le printemps reviendra et que les journées rallongeront, on appréciera. On est fait pour la lumière. Dieu est lumière. Amen. Et d'ailleurs, si nous considérons comment la Bible a été écrite et comment elle a été inspirée, vous trouverez d'abord la mention que Dieu est lumière, avant la mention que Dieu est amour. la lumière, 1 Jean 1,5, Dieu est lumière. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. La lumière est citée en premier, avant l'amour. Et ce matin, je vais vous parler de la lumière de Dieu. Dans la création, Dieu a d'abord créé la lumière. Si vous prenez les 7 jours de la création, le premier jour, le premier acte, c'est la lumière. C'est le premier jour. Et d'ailleurs, avant le soleil, la lune et toutes les étoiles qui arrivent le 4e jour. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et sa parole a ce pouvoir extraordinaire de créer. Il dit et la chose arrive. Il a créé la lumière. Alors, je vais souligner tout de suite que ce n'est pas une lumière comme celle du soleil ou comme celle des spots ou des néons. La lumière de Dieu est d'un tout autre ordre. Il a vraiment apprécié la lumière. Il a dit que c'était une chose bonne. D'ailleurs, il l'a séparée des ténèbres. Lumière ou ténèbres, ce sont les deux pôles, ce sont les deux camps. Et je crois que c'est bien qu'on réalise que Dieu est lumière et qu'il y a peut-être encore des ténèbres en nous. Je dirais que cette lumière est différente de celle du soleil. J'en prends pour exemple le texte d'Apocalypse 21 qui le dit clairement, D'ailleurs, il n'y aura plus de soleil, vous savez, dans l'éternité. Apocalypse, chapitre 21, verset 22. On prend le temps de lire ce passage. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Au chapitre 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. » Laissez-moi vous lire un témoignage. Elle s'appelle Lydia, une sœur en Christ. Voici son témoignage, son expérience. Elle a lieu en Afrique du Sud, cette expérience, dans le cadre du réveil parmi les Zoulous. Lydia, l'une des collaboratrices des missionnaires, est morte en 1973, puis elle est ressuscitée. Lorsqu'elle est revenue à la vie, elle a raconté son expérience. Je la cite. « On ne peut l'exprimer dans un langage humain. C'est au-dessus de toute description. Au ciel, vous ne vous sentez pas étranger. C'est comme si vous aviez toujours été là. La gloire est si grande que vous oubliez tout le passé. La gloire du Seigneur est trop grande pour que vous regardiez encore à vos parents, à vos bien-aimés. Tout cela s'efface en un instant quand vous partez à la rencontre du Seigneur, au moment où votre âme quitte votre corps. Oh, c'est au-dessus de toute description. Au ciel, ce commun accord, cette unité, la façon dont on s'honore réciproquement, cette harmonie parfaite, le langage des cieux ne peuvent être décrits. Chacun est même soumis à l'autre, s'abaissant réciproquement, et dans une unité parfaite, ils adorent l'agneau qui est au centre et se prosternent devant lui. Tous les yeux sont fixés sur l'agneau qui a été immolé. Et elle ajoute, « Le Seigneur Jésus est la lumière. Je ne peux comparer cette lumière à quoi que ce soit d'autre. Le soleil, d'une étrange façon, est terne en comparaison de cette lumière. Quand le soleil brille, nous voyons les arbres avec leurs branches et leurs feuilles. Mais à la lumière du Seigneur Jésus, l'arbre entier et toutes ses racines sont visibles. Tout est clair comme du cristal. On voit l'herbe et la façon dont les racines tournent autour des pierres, où qu'elles soient. Même cet exemple est une faible image pour exprimer à quoi ressemble cette lumière. Il n'y a rien de caché. Quand Lydia est revenue à la vie, en regardant autour d'elle, elle a trouvé la lumière de ce monde très faible. Et les maisons les plus propres lui semblaient sales et insignifiantes, comme on la comprend. Dieu est lumière. C'est pas la lumière du soleil, c'est pas la lumière de chez EDF. C'est une lumière différente. Deuxièmement, Jésus est lumière. D'ailleurs, là aussi, dans l'évangile de Jean, vous avez le chapitre 1 avant le chapitre 3. Est-ce que je sais compter ? 1 vient avant 3. Dans Jean 3, vous avez Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais dans Jean 1, vous avez Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Là encore, la lumière est présentée avant l'amour. D'ailleurs, on verra qu'il n'y a pas d'amour véritable sans lumière. Jésus est un don de lumière avant d'être un don d'amour. Bien sûr qu'il est un don d'amour, mais il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière est venue chez les siens, les Juifs, et ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné, la lumière a donné, c'est en même temps Jésus, hein, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Amen. Troisièmement, une conversion, c'est quoi? Une conversion, c'est quoi? Une conversion authentique, hein. Je parle pas des adhésions. Si je mets mon chat dans une basse-cour, j'en fais pas une poule qui pondra des œufs. Il restera chat. Et vous avez des gens qui pensent que parce qu'ils sont dans une église évangélique, ça y est, ils sont chrétiens. Mais non, ils sont pas chrétiens. Ils sont sympathisants, adhérents, sympas, cool. Mais ils sont pas chrétiens. Une conversion, c'est quoi ? 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Là encore, on trouve comme un fil conducteur qui est cohérent par rapport à tout le message biblique. Se convertir, c'est passer des ténèbres à son admirable lumière. Si on prend par exemple la conversion de l'apôtre Paul, lisons dans Acte 22. Ça vient vraiment confirmer ce qu'est une véritable conversion. Verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et puis verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Verset 11. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Et un peu plus loin, écoutez ce qu'il dit, le même apôtre. Chapitre 26. Acte des apôtres. Chapitre 26, verset 16. Lève-toi, lui dit Jésus sur le chemin de Damas. Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des nations vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, ça c'est les ténèbres, à Dieu, ça c'est la lumière. Une véritable conversion, c'est passer des ténèbres à la lumière. Et si vous êtes là pour une première fois, vous avez déjà tout entendu là. Êtes-vous passé des ténèbres à la lumière? Et les ministères, à l'instar de celui de Paul, sont donnés à l'Église pour aider, pour accompagner, pour permettre, pour participer, parce que c'est Dieu qui fait le travail, la plus grande partie du travail, mais nous, ses serviteurs, nous travaillons pour faire passer les âmes des ténèbres à la lumière. Voilà, c'était l'intro. Vous êtes convaincus que Dieu est lumière, que Jésus est lumière, que vous êtes, si vous êtes convertis, vous êtes passé des ténèbres à la lumière, que vous êtes maintenant des enfants de lumière qui marchent dans la lumière. Amen. J'aimerais maintenant vous montrer le rôle de la lumière de Dieu. Elle a un triple rôle qui se vérifie dans toute la parole de Dieu, Ancien Testament comme Nouveau Testament, et bien sûr, depuis 2000 ans que l'Église existe, dans la vie des chrétiens. Son premier rôle, c'est d'abord de nous condamner. Oh là là. Son deuxième rôle, c'est de nous faire participants de sa communion. Et son troisième rôle, c'est de faire de nous des propagateurs de lumière. Elle est tout d'abord une lumière de condamnation. Quand on rencontre Dieu, quand on rencontre la lumière de Dieu, qui ici pourrait en témoigner, je donnerai le micro à tout le monde dirait, je me suis senti sale. Je me suis senti perdu. Je me suis senti pécheur. C'est une lumière qui met, comme on l'a lu dans Éphésiens, qui manifeste les choses et qui les condamne. Et il faut passer par cette expérience-là. Elle est bonne, la lumière de Dieu. Et tout en nous, parce que, vous savez, David disait, mais je pourrais le dire avec lui, on a été enfanté dans le péché. On est pécheur depuis notre naissance. Et on a été dans les ténèbres. Aussi, quand la lumière de l'Évangile commence à briller, il y en a, ils se sauvent. D'autres se cachent. Je le disais l'autre après-midi à la réunion d'évangélisation, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il a couru derrière un arbre. La lumière de Dieu est bonne en cela qu'elle met à découvert, c'est Job qui le dit, Job 12, 22, il met à découvert ce qui est caché. Le psaume 139 dit que c'est impossible d'y échapper. Éphésiens dit que tout ce qui est mis en lumière est manifesté et donc jugé. Et quand le psalmiste dit, psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière », il ajoute « et mon salut ». Lumière et salut. Lumière et salut. Dieu, on l'a entendu dans un don spirituel, est le Père des Lumières. Aussi, moi, mes mots n'arrivent pas à traduire ce que j'ai dans le cœur, mais je fais confiance à la parole de Dieu que je cite pour imprimer chez vous le désir de venir à la lumière. En relation d'aide, en accompagnement pastoral, la façon dont le Seigneur m'a formé et m'a montré qu'il fallait faire comme ça, c'est de travailler avec la lumière. Et que dès que la personne, se sentant en confiance, sort les choses à la lumière de Dieu, parce que dans mon bureau, c'est des néons, hein, mais à la lumière de Dieu, les choses sont jugées et sont réglées. Il y a un jugement qui tombe. Il y a un verdict. Et il est bon. Et il est bon. Merci Seigneur. Vous savez, quand vous considérez un David, on va prendre quelques exemples pour imager le propos. Quand vous considérez David, quand Nathan vient vers lui, il lui dit, parce qu'il avait caché les choses, David, son forfait avec Bathsheba, le crime, parce qu'il a fait tuer le mari. Et il avait caché tout ça. Mais on peut rien cacher à Dieu. Et Nathan, le prophète, vient vers David, lui raconte une petite histoire de brebis. David se fâche tout rouge et Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Voilà, la lumière est faite et David est jugé. Quand Ésaïe voit le trône de Dieu dans Ésaïe 6, quelle est sa première réaction? Malheur à moi, je suis perdu! Quand la Samaritaine au bord du puits entend Jésus lui dire, appelle ton mari, j'ai pas de mari. Ouais, t'as bien répondu, t'en as eu 5 et le 6e, c'est pas ton mari. Vous appelez ça comment? C'est pas de la lumière de condamnation? Si c'est quoi d'autre alors? Hein? Frères et sœurs, c'est pas vous manquer d'amour. Dieu ne nous manque pas d'amour quand il nous amène, nous attire à sa lumière. Et quand notre vie, ce qu'on a pris tant de soins à cacher, est là dans la lumière de Dieu, mais prenez courage, vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut ce passage obligé. Sinon, je le répète, on n'appréciera jamais la lumière et on restera dans l'ombre. Le deuxième rôle de la lumière de Dieu, c'est de nous inviter à la communion. Une fois que le péché est révélé, jugé et confessé, qu'on a demandé pardon et qu'on a cru que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors on vient dans une lumière que j'appelle une lumière de communion. Et il n'y a pas de lumière de communion tant qu'il n'y a pas eu de lumière de condamnation. Tous ceux qui se sont condamnés, qui se sont examinés devant la Sainte Seine, qui ont dit « je reconnais, je suis pécheur », ceux-là peuvent goûter à la communion. Sur la montagne de la Transfiguration, 3 disciples vont en faire l'expérience. Dans Matthieu, au chapitre 17, on va lire un extrait, on voit que, à ce moment-là, là aussi, une grande lumière va entourer le Seigneur, va même l'habiter complètement. Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et Moïse, Élie, c'est la loi et les prophètes, hein, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit « Ah Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Que c'est beau, que c'est beau. Être dans la présence du Père des Lumières, être devant la lumière du monde, être environné de cette lumière. Il n'y a plus rien qui vient faire obstacle, mes péchés sont effacés, Dieu a la capacité de les oublier, et je suis en communion dans la lumière. Quand vous aurez goûté à ça, vous regarderez les choses de la terre d'un autre œil. La lumière de communion. Quelqu'un a dit, et j'aime bien cette phrase, « Avant de connaître les sommets, » là ils sont sur une montagne, hein, « avant de connaître les sommets, il faut laisser Dieu sonder nos abîmes. » Ouais. Avant la lumière de communion, parce que c'est celle qui nous intéresse, hein, il faut laisser Dieu sonder nos abîmes. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Christ t'éclairera. Une lumière de communion. Un jour, lors d'un culte, on était dans l'assemblée de Reims. Une sœur qui n'avait rien d'exalté, n'avait rien de déséquilibré, quelqu'un tout normal, même effacé, assez timide, est venue me voir à la sortie et m'a dit, « Pasteur, pendant que vous parliez, il y a eu autour de vous Mais moi, je ne l'ai pas vu. Une lumière. Et tout à coup, cette lumière m'a englobé. J'ai rien senti, j'ai rien vu. Mais elle l'a vu. Aujourd'hui, elle est auprès du Seigneur, cette sœur. Et je crois que ce jour-là, Dieu lui a fait grâce pour lui montrer déjà un avant-goût de ce qu'était la lumière d'en haut. Quand on y a goûté, on a envie d'y être. Et le soleil nous paraît bien pâle. Que Dieu fasse en sorte que on cherche cette communion. On cherche cette communion. Alors je reprends mes trois exemples. David, après avoir été jugé, après que son erreur a été, sa faute a été manifestée, mise à la lumière, eh bien dans le psaume 51, il parle de communion. Ésaïe, après avoir dit « Malheur à moi, je suis perdu !» il ajoute ensuite combien il va y avoir entre lui et Dieu un dialogue, une conversation, une communion. La Samaritaine, après avoir entendu la vérité sur sa situation, dira « Venez voir quelqu'un, il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Il y a eu contact, il y a eu communion entre Jésus et elle. Béni soit Dieu. J'aimerais vous attirer, par la parole de Dieu ce matin, à chercher cette lumière-là. Et puis, le troisième rôle de la lumière est évidemment un rôle de propagation, puisque Jésus dira « Vous êtes maintenant la lumière du monde ». Paul dira aux Philippiens « Brillez comme des flambeaux ». Je crois que, après avoir été jugé, après qu'on ait reconnu notre péché, qu'on ait été pardonné, qu'on a goûté à la communion, la lumière, elle est faite pour éclairer. Quand Paul passe des ténèbres à la lumière, Dieu lui dit « je t'envoie pour faire passer les autres des ténèbres à la lumière ». Une lumière de propagation. Et David dira dans le psaume 51 « j'annoncerai ta parole dans l'assemblée ». Et Ésaïe entendra Dieu dire « qui marchera pour nous ?» Il dit « me voici, envoie-moi !» Et le Seigneur l'envoie. La Samaritaine, jugée, pardonnée, en communion avec Jésus maintenant, elle sort vers le village, elle va vers les villageois qu'elle voulait éviter, et elle leur dit « venez voir ! Venez voir !» Elle devient témoin dans son village. Et ils sortirent, et ils vinrent à Jésus, qui reste plusieurs jours. Elle est devenue lumière pour son village. Frères et sœurs, il faut mettre ces trois rôles distinctifs dans le bon ordre. Si on veut être efficace dans l'évangélisation, si on veut être efficace dans le témoignage, et qu'on oublie les deux premières étapes, on a tout faux. Ça ne marchera pas. Pour être la lumière autour de nous, pour dispenser la lumière, pour être des porteurs de lumière, des propagateurs de lumière, eh bien, il faut être passé par cette condamnation. « Je me condamne et je me repens », dira Job. Oui, « je me condamne et je me repens ». Ensuite, qu'est-ce que je vais dire aux autres si je n'ai pas goûté à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu ? Mais une fois que je sors de sa présence, je peux aller vers les uns, vers les autres, et leur apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. Vous savez compter jusqu'à 3. Amen. 1, 2, 3. Condamnation, communion, propagation. J'aimerais aussi vous faire part de ce que la Bible appelle la marche dans la lumière. C'est intéressant cette expression. On va lire quelques textes dans 1 Jean, tout d'abord, 1 Jean 1, premier épître de Jean. chapitre 1er, verset 5. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Jean, chapitre 11, évangile cette fois-ci, de Jean, chapitre 11, verset 9. Jean 11, 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Mon frère, ma sœur, peut-être ce matin tu te demandes comment triompher de tels traits de ton caractère. Comment triompher de tels défauts, voire de tels péchés dans ta vie? La solution, c'est la lumière. C'est de venir à la lumière. C'est de marcher dans la lumière. Quand tu marches dans les ténèbres, tu vas broncher, c'est-à-dire tu vas tomber. Quand tu marches dans la lumière, tu vois arriver l'ennemi et tu peux lui résister. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, on a dit que c'était le chapitre de l'amour. Dieu a tant aimé le monde, ça on aime bien le verset 16, mais qu'est-ce qu'il est dit après le verset 16? Il y a le verset 18, Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Frères et sœurs, ces textes, et j'aurais pu en citer d'autres, nous rappellent que nous sommes des enfants de lumière, et que par conséquent, notre marche de tous les jours, ici, ou chez vous, ou au travail, c'est une marche dans la lumière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est habité par la lumière, et au travers duquel la lumière de Dieu passe. Des fois, ça fait des clashs avec l'ennemi. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Je travaillais à la banque et mon chef me disait de faire des faux en écriture. Ben évidemment, ça touchait aux dates de valeur de son compte à lui. Et il me demandait de le faire. Je dis, ben, non. Et vous savez ce qu'il a ajouté? Je suis ton chef. Ah oui? Et parce que je suis ton chef, ta conscience est libérée. Alors je lui dis, mais au-dessus de vous, il y a un autre chef. Lui, il a pensé que j'allais passer un coup de fil à son chef à lui. Moi, je parlais de mon Dieu. Mais oui, un jour, tout ce que les hommes auront fait tordu sera mis à la lumière. Ce qu'ils auront caché sera crié sur les toits. Alors, pour éviter la honte, frères et sœurs, marchez dans la lumière. Marchez aujourd'hui dans la lumière, demain dans la lumière, chaque jour dans la lumière. J'ai pas fait ce qu'il m'a dit. J'avais dans mon cœur, oh, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et des fois, faut être insoumis, hein. Quand votre conscience, spirituelle vous reprend, faut écouter. D'ailleurs, plus on ira, plus on avancera, plus on approchera du retour de Jésus, plus l'Église devra choisir son camp, hein. Ce sera lumière ou ténèbres, hein. Il n'y aura pas de gris obscur, moitié, non. ce sera noir ou blanc. Je vais terminer en citant encore une belle image de la parole de Dieu. L'Église est comparée dans le livre du Cantique des Cantiques. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Trois mots, aurore, lune et soleil, qui nous parlent de lumière. L'Église lune, vous savez, la lune n'a pas de lumière en elle-même. Elle reflète la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on la voit briller la nuit. Elle est tout simplement le reflet de la lumière du soleil. C'est exactement ça l'Église. On est le reflet de la lumière de Dieu. La gloire est encore voilée, dit un cantique, mais c'est déjà la lumière de Dieu. Alors, frères et sœurs, l'aurore, le soleil, nous parle de lumière et veut vraiment inonder notre cœur. Je conclue, c'est la deuxième conclusion, mais là je vous promets, je conclue. Dans les dix plaies d'Égypte, la plaie qui précède la dixième, c'est-à-dire la neuvième, la dixième, c'est la mort des premiers-nés, et c'est là que le peuple va être libéré. Eh bien, la plaie qui précède la dixième, la neuvième plaie, c'est la plaie des ténèbres. Et je peux vous dire, sans me tromper, parce que je crois à la parole de Dieu, que ces temps seront des temps de ténèbres. Avant le retour de Jésus, il y aura des temps de ténèbres. Mais se lèvera le soleil de justice. Pour ceux qui invoquent son nom, se lèvera le soleil de justice. Amen. Alors, soyons éclairés. M'excuserez le jeu de mots. Soyons éclairés ce matin. Venons à la lumière, ne craignons pas la lumière de Dieu. Apprenons à vraiment recevoir le Seigneur qui, ce matin, je crois, nous invite à venir dans sa présence. Est-ce qu'on pourrait prendre un court moment où on va répondre à la parole de Dieu? Et je voudrais simplement, assez courtement, s'il vous plaît, pour que plusieurs s'expriment, vous puissiez dire au Seigneur ce qui est maintenant sur votre cœur. Merci pour ta lumière. Seigneur Jésus, merci pour ta lumière, merci pour ta parole, lampe sur notre sentier, lumière sur notre chemin. Merci Seigneur, nous aimons ta lumière, nous y venons ce matin. Seigneur, juge les pensées des cœurs. Seigneur, tout ce qui est caché, permets-nous de l'amener à ta lumière, afin, mon Dieu, que tout cela soit confessé et abandonné. Seigneur, et que tu puisses régner au plus profond de nous, par ta lumière, nous verrons la lumière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur.